téléphoner à la cigarette dans son
parc. Bon, bah, félicitations, en effet, elle est superbe cette voiture. Très très excitante en tout cas. Et en termes de concurrente directe, vous visez la Porsche 718, Caïman ?
Franchement, il y a plusieurs voitures sportives. Hein. Notre cible, c'est de vraiment comprendre et appliquer l'ADN, les racines d'Alpine d'origine, de faire une voiture compacte, agile, légère, avec les mêmes principes de la berline d'origine, mais bien sûr tout en appliquant la technologie d'aujourd'hui ou de demain. Et on s'est mis sur cette cible-là pour des gens qui aiment la conduite, qui aiment piloter. Et franchement, on n'a pas trop regardé les concurrents. On a plutôt regardé ce qu'était Alpine dans son esprit à l'époque et comment réinterpréter cet esprit avec la technologie d'aujourd'hui. Et voilà la voiture qui suit. Et franchement, on n'a pas vraiment beaucoup de concurrents directs parce que d'un côté, tu as les voitures très lightweight, radicales, orientées circuit, qui sont très pointues sur les circuits, mais c'est quand même un peu difficile de vivre avec tous les jours. Et on a des voitures, des coupés sportives avec qui on peut très bien vivre tous les jours, mais qui sont 300-400 kilos plus lourds que l'Alpine. Alors là, ce qu'on a développé avec notre carrosserie tout en alu et tous les composants qu'on a choisi avec, qui sont aussi très légers, une voiture avec un poids de 1080 kilos, y inclut le plein, qui est très pointu, très agile, très facile à rouler sur circuit ou sur route, mais qui est quand même très confortable et très facile au quotidien. Et on se met vraiment sur les racines d'Alpine et le résultat, c'est un peu comme les berlines d'origine qui étaient à l'époque aussi très confortables. Et là, on a une voiture qui peut être utilisée très très bien pour s'amuser sur ce circuit, mais qui est tout à fait adapté pour être voiture unique pour tous les jours, avec exactement pour le quotidien, y inclut l'accès qui est très facile, les sièges qui sont très confortables, la suspension double triangle qui est la meilleure solution pour une telle voiture, mais il n'y en a pas beaucoup à ce niveau de prix, normalement c'est beaucoup plus cher, avec deux coffres, avant et arrière, 200 litres de bagages. Alors là, franchement, on peut s'imaginer à rouler avec tous les jours dans Paris et sortir le samedi pour s'amuser un peu sur le circuit. Et là, on a quand même un positionnement qui combine ces deux côtés-là, et c'est rare parce que normalement, c'est l'un ou l'autre. Là, on a l'un et l'autre.
Votre politique en termes d'options, ça sera quoi? C'est une voiture avec le tarif, avec toutes les options dedans, ou alors il y aura...
Pour commencer, on a développé la première édition que vous avez vue, 1955, bien sûr basée sur l'année de fondation d'Alpine. Et là, on voudrait offrir une spécification fixe, unique, pour deux raisons. D'abord, parce que je pense que ça arrive pas tous les jours qu'on relance une marque et on avait envie de faire une version numérotée pour les vrais passionnés qui nous suivent depuis des années. Deuxièmement, ça nous permet dans l'usine de vraiment se concentrer sur une qualité excellente parce que toutes les voitures seront identiques pendant 6-7 mois. Et ça, c'était un choix qu'on a fait il y a quelques temps déjà. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils étaient tout réservés en 5 jours, alors là, on est plutôt bien. Après, on aura toute une gamme d'options. Alors ça veut dire que les gens pourront se créer leur propre Alpine avec des gens, des couleurs, des différents étriers, des différentes versions de stéréo, des différentes options de frein, etc. Alors là, à départ de 2018, on aura différentes tranches de prix et d'équipement avec toute une gamme d'options.
D'accord. Et le premier prix, ce sera...
Moi, je dirais autour des 50. Les voitures hors option, les différents niveaux seront plutôt entre 50 et 60 000 euros TTC hors option.
Avoir des voitures à vendre, c'est bien. Avoir un réseau pour les vendre, c'est mieux.
Oui.
Alors, combien est-ce qu'il y a de concessions prévues dans le réseau Alpine Il y a Cologne, il y a Dieppe.
Non, il n'y a pas Dieppe.
Il n'y a pas Dieppe.
Que l'usine.
Voilà. Comment on se met sur un segment quand même très spécifique avec des clients très passionnés, très exigeants, voulaient mettre en face un réseau qui est aussi passionné, aussi compétent et aussi exigeant qu'eux. Et là, on a choisi d'être exigeant mais aussi pratique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de construire une soixantaine de showrooms dédiés alpines avec des équipes dédiées alpines en Europe. Mais ces 60 partenaires sont choisis de nos meilleurs partenaires Renault. On a des milliers de partenaires Renault partout en Europe. Et parmi ces milliers, on a identifié 60 partenaires qui, selon nous, représentent le mieux l'esprit d'alpine. En France, il y a une vingtaine, le reste d'Europe, il y a une quarantaine. Et c'est vraiment les partenaires avec qui on travaille main dans la main aujourd'hui pour préparer les livraisons, l'après-vente, l'expérience qui va avec, mais ce sera bien dans des choses spécifiques alpines, parfois complètement dédiées comme vous l'avez vu à Boulogne, parfois intégrées dans une concession alpine, mais toujours un showroom dédié, entrée dédiée, vendeur dédié et tout ce qui va avec.
Là vous parlez de la vente, mais avant de les vendre, il fallait produire. Ce qu'on voit là, c'est des pré-séries qui sont faits presque à la main.
Oui.
Quand est-ce que vous allez lancer véritablement la production en série?
Franchement, le process standard pour la préparation des séries, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a les pré-prototypes qui sont faits complètement à la main mais qui ne ressemblent pas à une vraie voiture. Il y a deux, trois étapes de prototypes et puis on lance la vraie série. Là, on est au milieu des prototypes, bien sûr avec une qualité de finition excellente, on a travaillé là-dessus, mais c'est le processus normal de conception de voiture où tu as différentes vagues, et là c'est la première vague où on se sent bien sur la qualité. C'est des voitures complètement conformes à ce qu'on va offrir aux clients à la fin d'année.
Ce ne sont pas les premières éditions qu'on verra délivrées au 1955.
Ces voitures aussi, c'est des prototypes encore, mais...
n'a pas déjà un client qui la verra.
Ça c'est encore des prototypes qui sont faits pour Genève.
Ce que je comprends, c'est que la production va démarrer la fin de l'année. C'est ça que
non, les livraisons vont démarrer la fin de l'année. La production commencera un mois ou deux avant.
Septembre.
Troisième trimestre, je
troisième
suppose.
Trimestre.
Les objectifs de vente en année pleine, on va dire, c'est quoi à peu près?
Bon, c'est les milliers, mais pas des dizaines de milliers. On a en ASIEP un outil de très haute qualité, mais aussi très flexible. On a bien sûr nos prévisions de vente. On verra comment ça se passe, parce que franchement, moi, je n'avais pas anticipé que la location France, la première édition, serait vendue en réservée en deux jours et le reste d'Europe en cinq jours. Bon, ça nous dit quelque chose, on verra, mais c'est prévu d'être des milliers, mais pas des dizaines de milliers.
Le plan de production standard qui était prévu au début, c'était combien de voitures par jour?
Je ne peux pas vous partager avec ça, désolé.
Bien tenté.
Vous pouvez poser la même question, mais...
Bien tenté.
Et l'ensemble de l'outil de Dieppe a dû être modernisé.
On a fait un grand plan d'investissement à Dieppe. D'abord, il fallait intégrer l'Alpine sur la ligne de montage qui aujourd'hui construit des Clio RS. Ça prend son temps, il y a un changement d'organisation, comment est-ce qu'on rentre dans la voiture, un moteur central arrière, etc. Mais il y a deux éléments très très clés pour ça. On a construit un nouveau hall de tôlerie complètement dédié à Alpine, parce qu'aujourd'hui les caisses de la Clio viennent de Flins, je pense, ou quelque part d'autre. Ça veut dire qu'il fallait faire une tôlerie complète. Alors là, on a construit un nouveau immeuble avec les dernières technologies, parce qu'on a un châssis collé, riveté et soudé. Et ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de combinaisons de technologies. Et là, on a construit ça complètement nouveau avec des robots adaptés à la construction de châssis ou de plateformes alpines avec tous les éléments d'aluminium, de la colle, etc. Ça, c'est fini et c'est là où on construit maintenant les prototypes. Et puis, comme on a des exigences très élevées ou importantes sur la finition, on voulait aussi upgrader la peinture. Alors là, on vient de finir aussi une automatisation de la peinture à Dieppe avec des robots de ponçage automatisés, etc. et là on automatise, mais au même moment on augmente les équipes, ça veut dire qu'on est en pleine embauche pour être au bon niveau de ça, mais on a la bonne combinaison d'une équipe très très pointue qui construit depuis longtemps des voitures de sport, soit IRS, soit des voitures de course, les Renault 2 litres, les Clio Cup, etc. sont aussi fait à
les 3T.
Voilà. Et là, on combine les meilleurs des équipes de main-d'œuvre avec les meilleurs de l'automatisation moderne, si vous voulez.
Et de ce que je comprends, c'est que l'usine de Dieppe vous permet de baisser, enfin d'absorber les coûts de structure, puisqu'ils sont déjà lancés pour une production Clio RS, Clio Cup. Donc en fait, ça permet de maintenir un prix de vente quand même assez canon.
Bon, franchement, on n'avait pas envie d'aller construire encore une voiture de sport de 100 000 ou 200 000 euros. Ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas dans les racines d'Alpine, ce n'était pas ce qu'on voulait.
Ouais.
Alors là, on vient de communiquer le prix tentative France 50 500 euros. On visait ce point-là parce que je pense qu'il y a un besoin d'une vraie voiture sportive quotidienne sur le marché, c'est ça qu'on a choisi et c'était évident qu'on allait la construire à Dieppe. On y a construit toutes les Alpines depuis 69. L'usine s'appelle toujours la société d'automobile Alpine. C'était évident qu'il fallait le faire et là on a le capacitaire de faire les Alpines et les Clio RS en même temps.
Mais si votre volume Alpine monte, parce que la demande sera forte, je l'espère.
Ouais.
Ça va peut-être ralentir le volume Clio RS qui va devoir partir à ce moment.
Bon, mais franchement, on est flexible là-dessus. Pour le moment, on a plein de capacitaires et on saurait investir plus à Dieppe. C'est pas trop difficile. Dans le temps, on verra. Mais franchement, ça, c'est des choix industriels qu'on fait tous les jours. Mais pour nous, c'était très important de construire la voiture à Dieppe. Alors, Alpine sera à Dieppe. Ce modèle était né à Dieppe et elle restera à Dieppe. C'est prévu comme ça.
Est-ce que c'est pas un peu dangereux de l'appeler A110 ? À un moment ça circulait à 120,
ouais,
ce genre de choses-là ?
Bon, on a bien regardé le sujet et comment c'était mis complètement sur les trois principes fondateurs de la A110 d'origine, la compacité avec le moteur arrière, la légèreté du truc pour avoir des performances et une conception pour être très agile. Franchement, on a briefé nos équipes, nos ingénieurs et nos designers pour faire cette voiture-ci. Et à la fin, quand on l'a vu, même si la technologie a changé, on pense quand même qu'on a resté très très proche des racines d'origine de la A110. Et c'est pour ça qu'on a dit, bon voilà, le concept, c'est quand même un concept un peu intemporel. Bien sûr qu'il faut être bon, mais
voilà,
je pense que les choix techniques qu'on a faits vont satisfaire les clients.
Pour l'instant, la palette de couleurs, c'est trois couleurs, noir,
ouais,
blanc, bleu.
Ouais.
Il y aura des couleurs après supplémentaires,
ouais,
ou on reste sur les,
ouais,
trois,
non,
couleurs?
Non, il y aura d'autres couleurs après.
Pourquoi avoir sorti le noir plutôt que le rouge? Puisque quand on est dans l'historique, les premières Alpines à 106 présentées à Renault, c'était le blanc-rouge, donc ça aurait été un clin d'œil.
Bon, franchement, c'était un choix qu'on a fait. Il n'y a pas de raison derrière.
Ouais.
Dans les voitures de sport, il y a quand même beaucoup de monde qui souhaite acheter des voitures noires. C'est évident que pour ce premier client très passionné qui adore, qui vous suit depuis longtemps, la grande majorité va prendre une bleue. Mais je pense qu'avec une blanche et une noire, on a quand même un petit choix qui nous sert très bien pour ces 2000 voitures. Après, on aura d'autres couleurs.
Et au-delà de ça, on voit que le véhicule est constellé de traces qui évoquent la France. Je pense notamment,
ouais,
au drapeau tricolore.
Ouais.
L'ambition, c'est même, pourquoi pas lui offrir le label Origine France Garantie. Ce serait un objectif ou est-ce que c'est parti?
Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, que la voiture ait été conçue entièrement en France et qu'elle ait construite en France. Franchement, sur ce segment très pointu, c'est un incontournable que tu dois acheter quelques éléments très spécifique à l'étranger, les jantes autofoux, bon, franchement aujourd'hui ça se fait pas en France, les jantes forgées comme ça, ça n'existe pas, les freins de Brembo, voulaient les freins Brembo avec l'actuateur de freins intégrés, bon c'est Brembo qui les fait. Alors bien sûr que tu es obligé, et moi j'ai vécu la même chose quand j'étais chez Aston Martin à l'époque, tu peux décider où tu conçois la voiture, tu peux décider où tu construis la voiture, mais pour sourcer les meilleures technologies,
c'est pas une histoire de pays.
C'est pas une question. Bon, ça n'existe pas dans tous les pays. Alors, quand ça existe en France, bien sûr, on pratique. Mais si ça n'existe pas, on priorise quand même la prestation de la voiture, et ça veut dire qu'il y a quand même des composants là-dedans qui viennent de l'étranger. Mais on peut vraiment dire que c'est une voiture française, je pense, hein, parce que ça a été développé entre les technocentres Renault et Renault Sport aux Ulysses. Ça sera construit, et inclus à Caisse, à Dieppe. C'est quand même assez franco-français, je pense.
Et le moteur,
même si moi, je ne suis pas. Désolé.
Et le moteur, lui, vient de Clio ?
Non, le moteur, c'est un nouveau moteur, dont un 1.8 turbo GDI est développé par l'Alliance Renault-Nissan. Nous sommes la première application de cette voiture, de ce moteur, avec l'application spécifique de l'entrée d'air, du turbo, d'échappement, on a un échappement sport actif, lightweight, alors avec un clapet. Alors c'est un moteur dans cette confection quand même très, très alpine, mais dans l'Alliance on choisit le lieu de production des moteurs pour ce qu'on serve après pour tout le monde. Alors là, ce moteur sera construit dans l'usine de Renault en Corée, qui fait d'excellente qualité, et ça nous va très bien, franchement.
Et puis ça arrive directement au port du Havre en plus.
Pardon ?
Et ça arrive directement au port du Havre, ce qui est juste à côté de Dieppe.
Ah, oui.
Et la boîte Getrag, à cet rapport, elle est séquentielle, elle est robotisée, elle est double embrayage ?
Il faut être très spécifique,
ouais.
C'est une boîte Getrag avec des étagements de vitesse spécifiques alpines.
Oui.
Parce que sur beaucoup de voitures sportives ou semi-sportives, les étagements des vitesses n'est pas adapté au poids. Et comme on voulait adapter les vitesses, les rapports au poids de la voiture, on a choisi un étagement spécifique pour Alpine, qui n'existe pas ni sur d'autres voitures que fournit Getrag, ni pour d'autres Renault. En plus, on a un wet clutch, un embrayage humide.
Humide.
Voilà. Qui apporte une vitesse, une fluidité de changement qui aujourd'hui on ne connaît pas dans le groupe. Alors là, de nouveau, on prend un pas en avance. Ça fonctionne très bien pour nous. Après, on verra ce que nos collègues font avec.
Donc, ce n'est pas une boîte double embrayage ?
Si.
Si, c'est une boîte double embrayage.
Si. Sept rapports.
Sept rapports double embrayage.
Embrayage humide.
Humide.
Spécifique alpine.
D'accord.
Parler du moteur, est-ce qu'il y a dans l'idée de faire une évolution plus puissante après ou pas ?
Bon, franchement, il faut d'abord essayer la voiture, parce que franchement, avec un poids de 1080 kg, avec un poids très centralisé dans la voiture, et une boîte adaptée à la voiture, et 252 chevaux, dans cette configuration, ça roule extrêmement vite. Alors franchement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de puissance.
C'est intéressant, mais c'est ce que certains amateurs d'alpine reprochent aujourd'hui. Ils ne la trouvent pas assez puissante.
Non.
Parce qu'ils ne l'ont pas testé, sans doute. Mais
non, c'est exactement ça. Tous les gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont roulé, sont sortis de la voiture en disant « ouais, ça va, il n'y a pas de problème ». Alors là, ça roule très 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 vite, parce que en accélération, vous connaissez 4 secondes 5 à 100, mais ça ne parle pas de l'agilité en latéral. Et franchement, si on sort de la majorité d'autres coupés sportifs, on a vraiment l'impression d'enlever un sac à dos avec des briques là-dedans. Et c'est ça qui crée cette performance. Dans le temps, est-ce qu'on pourrait faire des versions plus performantes encore ? Oui, c'est possible. Mais pour le moment, on pense que ce n'est pas du tout nécessaire.
Pensez à une boîte manuelle ou pas ?
Pour le moment, ce n'est pas prévu. Parce que là, aujourd'hui, sur le marché des voitures sportives, la grande majorité, c'est quand même des DCT. Là, on a une très bonne boîte de DCT et ça nous suffit pour le moment. On ne peut pas tout faire.
Il y a une affaire de poids aussi.
Oui.
C'est une affaire de manuelle dans sa totalité, tous les éléments compris, pèse plus lourd que la boîte qui est sur la voiture.
Ah,
oui.
Ah, on va le dire chez Porsche, qui viennent de mettre la boîte manuelle sur la GT3.
Parce que c'est vrai qu'il y a quelques marques justement qui repartent sur une boîte manuelle pour le plaisir de conduire, même si on perd en performance. La connexion avec la conduite.
C'est un choix, mais la décision qu'on a prise très tôt chez Alpine, qu'on va faire correctement les choses qu'on fait et qu'on ne va pas tout faire.
D'accord.
Parce que franchement, là, on a une petite équipe, une petite marque dans un grand groupe. Et on a bien résisté l'inclinaison très facile à se mettre en face de tout le monde avec toutes les solutions. Mais ce qu'on s'est dit, c'est non, on va faire une voiture très spécifique, fidèle au racing d'Alpine, très pointue, mais on n'essaye pas de tout faire. Alors là, on a un moteur, une boîte, etc. Et franchement, je pense que ça va suffire à la grande majorité des gens. Surtout, comme on a une voiture qui est d'un côté très pointue sur circuit, etc., mais d'autre côté, très confortable au quotidien.
Est-ce que vous allez accompagner vos clients comme fait Renault Sport en les amenant sur les circuits?
Il y a
5 journées par an ou 6 journées par an sur Aspa.
On verra, mais oui, on a plein d'idées là-dessus. Bon, c'est un peu tôt encore parce qu'on n'a pas encore de voiture en route, mais oui, on travaille bien sûr sur l'expérience client dans sa totalité, y inclut des journées sur circuit, bien sûr.
Et en parlant de circuit, du coup, vous voulez la mettre en compétition ou pas, la voiture, que ce soit en monomarque
De nouveau, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. On a démarré très tôt sur l'endurance, comme vous le savez, parce que dans les racines d'Alpine, bien sûr, il y a le sport avec des berlinettes et il y a bien l'endurance parce qu'on a bien gagné Le Mans en 78. Comme on n'avait pas de voiture encore, on s'est mis sur la LMD2 et ça se passe plutôt bien parce qu'on a tout gagné à peu près l'année dernière. Ça continue en 2017, on continue à travailler avec Signatec. Au-delà de ça, on n'a pas encore tranché. Cette année, notre priorité, c'est de finaliser la voiture de production dans l'usine, le réseau, etc. Comme vous le dites, c'est du boulot de créer un réseau. Ça nous suffit, on n'a pas les équipes pour se mettre sur la compétition des voitures de série en plus. Dans le temps, c'est probable qu'on va les faire, mais ce n'est pas pour cette année.
Et si on réfléchit au futur, le développement d'une gamme Alpine, ça viendrait pour l'exemple sur un SUV ou sur d'autres versions?
Aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise sur des modèles éventuels à suivre. Aujourd'hui, notre priorité absolue, c'est de faire correctement cette voiture, pas uniquement en conception, ça c'est pas trop difficile maintenant qu'on l'a fait, mais en exécution globale de la voiture même, ses prestations, sa fiabilité, sa qualité perçue, son réseau, son après-vente, la disponibilité des pièces. Et franchement, ça va nous prendre quelques années de mettre ça en marche de manière stable.
Ah,
ouais. Je vais juste dire bonjour. Écoutez, attendez.
Julien,
vous pouvez
voir si tu peux pas faire une photo.
J'en ai pris, moi. Ok. Je l'ai pris et
t'as fait l'enregistrement.
Vous l'entendez.
On était sur quoi, là? On était sur les SUV. Ah oui, j'ai une question. Est-ce que vous allez... Parce que quand on la voit, l'Alpine, elle est super sexy. Et on n'a qu'une envie, c'est d'enlever le toit pour entendre le bruit quand on roule. Profiter de l'air.
Attends, j'ai la réponse. C'est pas prévu tout de suite. Pour l'instant, je pense que c'est le coup.
Est-ce qu'il y aura une version Targa?
Je vais être plus spécifique que ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de décidé sur la suite après cette voiture. Notre priorité absolue, c'est de réussir cette voiture dans tous ses éléments. Et à l'interne, toutes les équipes travaillent là-dessus. On a à côté toute une liste d'idées d'animation de la gamme que vous pouvez imaginer, dont ceux qui vous mentionnez et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, c'est au parking, c'est mis à côté, on ne travaille pas là-dessus. D'abord, on lance cette voiture, on fait correctement dans les marchés qu'on a choisis. Peut-être après qu'on regardera aussi d'autres marchés dans le monde qu'on n'a pas encore prévu. Et après ça, peut-être dans quelques années, on peut se faire des réflexions sur une gamme qui suit. Je pense qu'on a 8 ou 10 idées différentes sur ce qu'on pourrait faire. Bon, on verra. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de tranché.
Le marché, il est occidental? Le marché, il est occidental, c'est-à-dire
on s'est mis sur 12 marchés en Europe plus le Japon. Ouais. Ça nous suffit pour le moment. Ça représente juste en dessous de la moitié du segment mondial. Ça nous suffit, il y a une autre liste de marchés, on ne sait pas encore si on y va. D'abord, il faut qu'on soit bon sur ces 13 marchés-là, et ça nous suffit pour le moment.
Et l'attente en Europe, en France, elle est aussi forte que celle en France, parce que...
Bon, en volume, bien sûr que la France sera au début la première marché d'Alpine, c'est normal, parce qu'on est quand même très fiers d'avoir une marque française. conçue en France, produite en France pour les Français et les étrangers. Alors pour le moment, ça se passe super bien en France, il y a beaucoup d'intérêt. Le reste d'Europe, c'est très bien parti aussi. Je ne l'avais pas anticipé, mais même les autres marchés d'Europe, toutes les premières éditions ont été vendues en 5 jours. Alors il y a une vraie attente. Par contre, les volumes ne seront pas les mêmes qu'en France dès le début. Et maintenant, c'est à nous de nous installer, réinstaller sur ces marchés-là avec le bon produit, le bon réseau, les bonnes histoires qui vont avec. Enfin, on verra dans le temps comment ça se développe. Pour le moment, on est bien.
Avez-vous un plan pour éviter la spéculation ?
Excusez-moi ?
Un plan pour éviter la spéculation, comme on a pu le voir sur les Porsche, sur la dernière version, le réveil de la 991,
A priori, ce qu'on a, vous l'avez vu probablement, on a ouvert l'APS en mois de décembre pour que les gens puissent réserver leur voiture. C'est limité à une voiture par personne et c'est pas transférable. Après, on va livrer ces voitures-là à leurs clients. Bon, il y aura quelques-uns probablement qui pensent, bon, si je peux le vendre un peu plus, je vais la vendre. Mais je pense que avec les gens qui nous suivent, la grande majorité est tellement passionnée, ils ne vont pas dire au revoir à leur voiture si après ça prend 6 mois, 1 an pour en avoir une deuxième. Alors pour le moment, je pense que ça se passe plutôt bien. Mais franchement, moi, on était quand même agréablement surpris, pas par la demande de ce produit, mais par la vitesse à laquelle ça a été réservé. Bon, c'est plutôt bien pour nous. Et je pense que les gens qui ont réservé cette voiture, c'est quand même les gens qui nous suivaient de très proche. Et c'est ceux qu'on aimerait bien mettre les clés dans la main.
Vous avez procédé à une vérification. Par exemple, on a soupçonné beaucoup de concessionnaires qui savaient qu'ils n'auraient pas l'agrément pour devenir un showroom Alpine, d'avoir réservé cette voiture pour la proposer eux-mêmes. Vous allez vérifier cas par cas qui va recevoir, qui a commandé la voiture, si c'est bien en particulier.
Ben, écoutez, on a des milliers de partenaires dans le monde et on a communiqué très clairement qu'il n'y a que ces 60 affaires-là qui vont vendre des Alpines. Mmh. Et le reste du réseau n'a pas accès à cette voiture. Ça veut dire que on a quand même beaucoup de passionnés de voitures parmi nos partenaires et il y en aura sans doute qui vont acheter la voiture pour eux, qui peuvent garder dans leur collection. Il y a beaucoup de concessionnaires Renault qui ont des collections de Renault et d'Alpine. Est-ce qu'il y en aura une ou deux qui vont vendre leur voiture? Oui, probablement. Mais je pense vraiment que cette voiture, dès le début, sera une voiture de collection quasi dès le début. Nous, on aimerait bien que ce soit une voiture par personne, que ce soit les bonnes personnes. Après, nous, on ne maîtrise pas la revente des voitures après. Et on espère que ça ne sera pas trop important, mais je pense que ça va se gérer tout seul. Quand je regarde la passion avec nos clients, ces clients qui on a invité ici sur le stand après-demain et la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas vu trop de monde qui me disent « Bon, j'ai pris la voiture, si je peux, je regrette » ou bien « J'ai pris la voiture, j'ai envie de la vendre. » Donc ça ne va pas se faire.
On remarque que la voiture est quand même une grande partie issue d'éléments de la banque d'organes de Renault. On a des aérateurs de Clio, on a des poignées de porte de talisman, enfin des poignées de porte intérieures de talisman. Je crois même qu'on a des miroirs extérieurs qui viennent d'une autre voiture de l'histoire. On est quand même sur une voiture qui, a priori, est rentable.
Bon. Donc, nous, on ne parle pas de la rentabilité des voitures et des marques dans le groupe. On a une rentabilité globale et on ne parle pas de la rentabilité. Je ne peux pas vous en parler. Ce qu'on a essayé de faire avec cette voiture, c'est de répondre au brief, de faire une vraie Alpine, compacte, agile, légère et très bien finie pour justifier le niveau de technologie qui va là-dedans. On n'avait pas envie d'aller faire une voiture de 100 000 ou 200 000 euros parce qu'il y en a plein déjà. Et ça veut dire que ce que vous voyez, je pense que tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, c'est très correct. Et la grande majorité des pièces sont soit des pièces spécifiques Alpine, soit des pièces qu'on partage avec d'autres éléments du groupe qui sont quand même très qualitatifs. Et c'est ça l'objectif. Je pense qu'on a quand même un objet très cohérent dans son ensemble. Et franchement, le fait qu'on utilise quelques éléments partagé avec d'autres voitures, c'est ça qui fait la différence entre une voiture à 58 500 euros et une voiture beaucoup plus chère.
Et à la rigueur, c'est dans la tradition.
Et en soi, ça n'aurait pas apporté grand-chose.
À la rigueur, c'est dans la tradition Alpine, hein, parce que la 110 originelle, c'est sur une base de Renault 8. Hein,
ouais. Donc, non, mais je pense qu'il faut regarder.
Il y a un côté un peu populaire, entre guillemets, avec
je pense qu'il faut regarder la conception de la voiture. C'est une vraie voiture de sport, avec des choix techniques très différents de ceux de toutes les autres voitures, chez Renault ou autres. Et la question à la fin, c'est vous qui devez répondre à ça, c'est pas à moi de dire, c'est est-ce qu'on a une voiture qui est cohérente dans sa conception, ses éléments et surtout son comportement. Et j'espère que oui.
Une question sur vous, Miguel Van Dersen, vous venez de plusieurs constructeurs, et ça sera la question. Et ça sera la dernière. Une question donc plus sur vous, sur votre parcours. Vous venez d'Aston Martin, vous avez été directeur du marketing de Renault sur l'activation des marques. Forcément, vous arrivez un peu à la fin du projet qui a longtemps été mené par Bernard Olivier. Votre valeur ajoutée, c'est créer le marketing, de lancer le produit.
Bon, franchement, il y a plusieurs éléments. Depuis que je suis arrivé chez Renault en 2013, on bossait avec les équipes d'Alpine, dont Bernard Olivier, sur la stratégie d'Alpine. Alors moi, j'étais impliqué dès le début parce que franchement, toutes ces questions, c'est est-ce que Alpine est une marque à part ou non, etc. J'étais plein là-dedans et je pense qu'on a fait avec Bernard les bons choix parce que je pense qu'on a un truc qui colle, que les gens comprennent aujourd'hui. Alors pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai bossé fortement sur la stratégie de la marque, du produit, du réseau, etc. On a décidé ensemble. Et là, j'ai eu, il y a un an et quelques, la chance de prendre la tête d'Alpine. La voiture, dans sa conception technique, était plus ou moins faite. On a fait quelques ajustements encore dans des pièces techniques et dans la finition. On a bien travaillé avec les équipes cette année. Et bien sûr, depuis que je suis arrivé, on a conçu toute la commercialisation, on a choisi le réseau, tous les processus d'après-vente, des pièces, etc., toute la communication. Je me suis mis là-dessus aussi. Alors, c'est vrai que la majorité de la voiture était bien construite, conçue quand je suis arrivé, mais je pense que la boîte a fait les bons choix et je suis très content d'être associé avec, franchement.
D'accord, merci.
Okay. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très bon soir.
À bientôt. Hein.